ces deux journées, il convient de les restituer d'emblée dans un double contexte, hein, et c'était, je fais référence un petit peu à la présentation que vous avez pu lire, hein, sur le catalogue de la mission formation. Le double contexte, ben, je dirais, c'est celui de la crise de l'enseignement de la littérature en France. Bon, et c'est pas la peine que je développe, je renvoie aux mises au point réitérées de Todorov, et la dernière dans La littérature en péril, en janvier 2007. Mais j'affecterai au terme crise la valeur positive de questionnement foisonnant, en renvoyant notamment à tout ce qui s'est fait en matière de recherche et de réflexion dans le premier degré, autour de l'inscription explicite de la littérature au programme des élèves, et aussi dans le cadre du concours de recrutement des professeurs des écoles. Hein, donc voilà pour ce premier élément de contexte, la crise de l'enseignement de la littérature. Pour le second, eh bien, là aussi je reprends la première phrase de l'argumentaire, la perspective du socle commun des connaissances et des compétences nous invite plus que jamais à mettre en dialogue les pratiques pédagogiques et didactiques, les pratiques professionnelles des premiers et second degrés. C'est l'esprit qui sous-tend notre recherche ici, hein, la recherche de l'équipe littérature et enseignement, a depuis le début pour objectif cette mise en dialogue des pratiques du premier et du second degré autour de l'enseignement de la littérature. Donc, c'est dans cette perspective du socle commun que nous allons travailler, une perspective qui nous invite à repenser l'enseignement-apprentissage de la littérature, son évaluation, et peut-être plus largement encore, là, je dirais pas le métier, je dirais plutôt, et en reprenant l'opposition de Dan Jorrow, la profession d'enseignant. Hein, c'est-à-dire, quelle posture est la mienne, quelle posture professionnelle est la mienne lorsque je m'occupe de littérature ou de poésie avec les élèves. Et je pense que, encore une fois, la poésie est peut-être le genre qui nous permet de poser avec le plus d'acuité cette question. Alors, notre approche ne sera donc pas théorique, elle sera plutôt d'ordre professionnel, et vous qui êtes ici êtes avant tout des formateurs. Hein. Alors, concernant le socle commun, j'y reviens, on a un peu l'impression, à lire des rapports officiels, et je pense notamment au texte sur, de l'inspection générale sur l'évaluation des carnets de compétences, enfin sur les carnets d'évaluation des compétences. Hein. Donc quand on lit ces textes, quand on écoute les discours de provenance diverses sur la notion de compétences, on a l'impression que cette perspective de mise en place du socle commun soumet à la question les formateurs, soumet à la question les enseignants en général. Alors, en termes de compétences, il y a celle qui renvoie aux enseignants, celle qui renvoie aux élèves. Le Haut Conseil a défini, c'est pas un scoop, vous le savez mieux que moi, le Haut Conseil a défini les 10 compétences des enseignants. Alors, je ne vais pas les énumérer toutes les 10, mais simplement reprendre celles qui renvoient un peu à notre réflexion de ces deux jours. Compétences disciplinaires et culturelles, ça va de soi. Compétences à concevoir son enseignement, c'est surtout là-dessus, je crois, que l'on va réfléchir. Compétences à prendre en compte la diversité des élèves. Diversité des élèves, quand il s'agit de poésie, c'est pas seulement une diversité en ce qui concerne les compétences instrumentales, enfin les diversités sur le plan des acquis instrumentaux, c'est aussi la diversité de sensibilité, de culture, culture sociale, culture ethnique aussi. Hein, c'est quelque chose en tous les cas qui entre en compte, enfin qu'il faut prendre en compte dans le cadre du travail sur la poésie. Compétence à gérer sa classe, bien sûr. Compétence à évaluer les élèves, c'est peut-être là aussi que la question se pose très fortement. Comment évaluer un travail en poésie? Un cheminement d'élèves en poésie. J'espère qu'on pourra apporter des éléments de réponse. compétence à réfléchir sur sa pratique, à innover, à se former. Voilà. Bon, ce sont des compétences, je dirais encore une fois, hein, qui étaient nécessaires, qui sont nécessaires depuis toujours, mais qui sont rappelées ici par le Haut Conseil. D'accord. Alors, renvoyons maintenant aux compétences définies pour les élèves. Alors, bien sûr, là aussi, vous connaissez les textes et vous connaissez la répartition en 7 piliers de compétences. Enfin, bon, il s'agit d'un terme, moi, que je trouve un peu étonnant. Bon, probablement choisi pour faire image, qui a ses connotations. Disons que pour les enseignants, les retours que l'on a, hein, la notion de compétence soulève le problème de l'articulation entre les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, qui sont à mettre au service de situations données, des situations qui ne requièrent pas seulement l'application immédiate de ces connaissances et savoirs, mais qui exigent le plus souvent leur ajustement, un ajustement pertinent. Alors, la question qu'on se posera pendant ces deux jours, qu'est-ce que cette perspective du socle commun signifie appliquée à la littérature, à la lecture de littérature, à la lecture de poèmes, de poésie? La question ne manque pas d'intérêt. Elle amène à interroger la place des connaissances et de leur construction. Par place, ce n'est peut-être pas l'ordre hiérarchique que je veux signifier, mais d'une façon tout à fait pratique, la place dans le déroulement chronologique de la séquence du travail. Ce qu'on appelle outil de lecture, les repères culturels, les critiques, les notions formelles, etc., est-ce que ce sont des préalables sans lesquels aucune lecture ne peut advenir ? Ou convient-il au contraire qu'ils apparaissent comme des besoins à construire, des appuis toujours provisoires à élaborer en cours d'activité? En n'hésitant pas à user de facilité, je reprendrai la fameuse formule, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en lisant qu'on devient liseron, mais c'est vrai, pour tout apprentissage, enfin tout apprentissage nécessite un accompagnement. Des dispositifs qui permettent une co-construction avec le maître, avec les pairs, des savoirs et des savoir-faire. L'enseignement peut alors reposer essentiellement sur la mise en chantier d'activités, chantiers qui vont constituer des espaces d'apprentissage pour peu qu'ils donnent lieu à des traces sur lesquelles il est toujours possible de revenir, des traces à questionner, et nous parlerons au cours de ces deux jours de carnets de poésie, de cahiers de mémoire de lecture, d'écrits réflexifs. Autant de traces qui permettent de dégager et d'améliorer des savoirs, des savoir-faire, qui permettent à l'enseignant et à l'élève d'évaluer les progrès, les réajustements opérés ou à opérer. Le dispositif de notre recherche INRP, littérature-enseignement, conduit depuis 3 ans, repose sur le même principe appliqué aux enseignants. Je rappelle, beaucoup le connaissent ici, hein, mais les enseignants ou formateurs associés à la recherche sont en quelque sorte mis en chantier à partir d'un texte ou d'un corpus commun qui les place en situation problème. Et ils sont amenés à réfléchir, à dialoguer, mutualiser cette réflexion à partir de collectages divers, des écrits, des transcriptions, des échanges oraux, des enregistrements vidéo et sonores. Et cela dans le cadre de rencontres en amont de la mise en œuvre, pendant et surtout après. Alors la première année, nous avions travaillé, et là aussi beaucoup sont au courant, sur La Petite Sirène, un récit, un texte que je qualifierais, moi, de consistant. Il n'est pas seulement résistant, il est aussi consistant. Consistant du fait de la parole qu'il développe, hein, et naturellement qui va entraîner des réticences chez la part des lecteurs, enfin des interrogations. Voilà. Depuis 2 ans, Nous travaillons sur le texte poétique, sur la poésie. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de registre ou de genre, qui a ses en tous les cas, qui l'un et l'autre ont leur spécificité par rapport au récit. Sachant toutefois que tout texte poétique joue avec le récit, avec le drame, et je pense qu'on va faire allusion à plusieurs reprises au travail qui a été fait sur « Chose du soir », par exemple, de Victor Hugo, qui joue avec le récit, sur le poème « Premier jour » de Prévert aussi, qui entretient un jeu assez ambigu avec le fait divers, on va dire le récit de vie. Et inversement, lorsque nous avions travaillé sur La Petite Sirène, nous avions constaté, avec les élèves l'avaient rencontré aussi, à quel point les effets poétiques entrent en jeu dans le récit littéraire. Et bon, il y a eu un beau travail fait, notamment sur le début, un beau travail de lecture sur le début très poétique hein, de La Petite Sirène. Bon, nous reviendrons sur toutes ces notions au cours de ces deux journées. Alors, dans l'esprit de la recherche que nous conduisons ici, il n'est pas question d'innover forcément à tout va hein, et de jeter au panier les propositions traditionnelles de travail, mais plutôt de les penser à chaque fois pour qu'elles soient du meilleur profit pour les élèves. D'en penser le support, texte, c'est essentiel, et d'envisager le déroulement de ces activités avec le plus de pertinence possible, sachant qu'il y aura forcément des réajustements en cours de route. Et, bon, exemple, je veux dire, de petits exercices tout à fait traditionnels, la dictée, exercice sur lequel on tombe de façon convenue à bras raccourcis, mais c'est peut-être à la fois une situation d'évaluation sommative et formative, et puis une situation d'apprentissage, et pas seulement sur le plan de la maîtrise de l'orthographe. Hein, qu'on dicte, par exemple, à des enfants du cycle 3, le petit poème de Supervielle, Le lac endormi, sans indication de mise en page. Alors, je vais vous dire ce poème, il est bref. Hein. Un sapin la nuit, quand nul ne le voit, devient une barque sans rame ni bras. Point. On entend parfois quelques clapotis et l'eau s'effarouche tout autour de lui. Point. Cet exercice les amènera à se poser un bon nombre de questions sur les notions de rythme, de rime ou d'écho sonore pour restituer la mise en page. Qu'on leur demande ensuite en question de dictée, c'est un peu de la provocation, de développer ce qu'ils comprennent de la première et de la seconde phrase. Devient une barque, qui est une presque image, hein. Et l'eau s'effarouche tout autour de lui. Bon, hein, d'où peut venir ce que la petite sera. Bon, je veux dire, on installe là une situation de réflexion qui peut donner lieu après à des échanges oraux. Encore une fois, c'est un petit peu le genre d'exercice qu'on a pu faire étant enfant. Je me souviens encore d'une question de dictée portant sur l'odeur ensoleillée des glycines, empruntée à Colette. Bon. Enfin, qu'on leur montre le texte, ils seront à chaque fois, je l'ai déjà fait bien sûr ce travail-là, hein, et à chaque fois, ils sont tous bien surpris, ces enfants de cycle 3, parfois aussi les stagiaires, les PE, de voir qu'il y en a à clapotis et qu'il n'y en a pas à quelques clapotis, etc. Alors bien sûr, à chaque fois, ils pensent que c'est trompé, hein, et donc il y a là matière à recherche orthographique pour le nom commun et à recherche sémantique pour l'adjectif indéfini. Bon, je veux dire, c'est un petit exercice, vous voyez, tout simple, qui n'a rien de révolutionnaire. Hein. Dans ces deux journées, il va être aussi beaucoup question de l'oralisation du texte poétique. Et là aussi, bon, qu'est-ce qu'on fait d'un exercice d'oralisation ? Alors, je dirais que il y a deux perspectives qui sont envisageables. Où l'on considère que c'est à l'issue d'une analyse préalable que la mise en voix peut rendre compte d'une interprétation. Ou, dans une perspective peut-être un peu plus dialectique, et qui prend en compte la spécificité du poème, qui fait jouer l'hésitation prolongée entre le son et le sens, pour reprendre Paul Valéry, dans une perspective artistique, celle du comédien, on considère que le passage immédiat du texte et de sa matière sonore et sémantique par la voix et le corps, procédant par tâtonnements successifs, par reprises réfléchies et dialoguées, peut conduire empiriquement à une analyse et une appropriation régulée. Bon, on a rendu compte de ça à plusieurs reprises dans la recherche, et vous trouverez sur le site des travaux conduits sur la môme néant, notamment de Tardieu, avec des enfants de CE2 ou avec des étudiants en art du spectacle. Enfin, la compétence numéro 5, enfin le pilier numéro 5 là, des compétences, renvoie à la notion de culture humaniste, qui inscrit explicitement la littérature dans le domaine artistique, au même titre que la musique, le cinéma, les arts visuels, et l'inscrit encore plus largement dans le vaste domaine des sciences humaines, et invite donc les enseignants à situer leurs propositions dans une perspective interdisciplinaire. L'approche de la littérature, pour nous la poésie, a certainement à gagner à ses mises en résonance féconde entre plusieurs disciplines. Il s'agit peut-être même d'une urgence. Hein? Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, parallèlement, on entend beaucoup parler de critiques axées sur, d'approche anthropologique de la littérature, hein, parallèlement, je dirais, un discours, une focalisation aussi sur la question de l'esthétique de la réception. Hein. Bon, je dirais, ces deux approches ne sont pas exclusives, hein, d'une approche, plus esthétique, plus formaliste, d'une attention portée aux formes, à leur évolution à travers l'histoire, aux effets que la forme produit sur le récepteur. Donc, dans le cadre de la formation à la littérature, à la lecture littéraire, la culture de l'isola, hein, l'émiettement en notions, en sous-compétences décontextualisées pour être travaillées, a peut-être ses applications et ses intérêts, mais bon, certainement moins qu'en biologie, où de toute façon, elle n'est qu'un moyen et non pas une fin en soi. Donc, la formation à la lecture de poésie ne peut procéder de l'addition de sous-compétences juxtaposées, reconnaître une image, une rime, un effet sonore, un mètre, une forme, un motif propre à telle ou telle école, articulé convenablement. Donc, ce n'est pas l'addition de sous-compétences juxtaposées pour lesquelles on proposera un entraînement, elle passe avant tout par une confrontation au texte, organisée par le maître, animée du souci de mener à bien les apprentissages, l'acculturation et la formation des élèves, mais animé aussi du souci de conserver au maximum l'entendement de ce qui se passe réellement et en temps réel quand les élèves rencontrent un texte poétique, de façon à être en état d'opérer tous les ajustements nécessaires et féconds. Mais je crois que c'est cet entendement de ce qui se passe chez les élèves, hein, qui est essentiel dans le cadre de l'enseignement de la littérature. Et il s'en passe des choses, et parfois très fortes. Ça peut donner lieu à parfois une explosion expressive chez les enfants. Ça peut donner lieu aussi parfois à de grands silences qu'il faut savoir entendre et faire valoir. Et faire entendre à ceux qui les vivent, ces silences. Voilà. Donc nous avons pensé ces deux journées comme un séminaire, hein, beaucoup plus que comme un colloque. C'est pourquoi nous souhaitons l'alternance entre différents types d'interventions et puis des prises de parole, des échanges au sein du groupe. Alors il y aura les interventions qui problématisent les questions des pratiques, celles qui rendent compte de pratiques en classe ou dans le cadre de la formation. Et puis un atelier, par exemple un atelier pratique, celui de Sylvie Dardaillon, atelier de mise en voix. Et puis surtout, lors de la dernière demi-journée, un atelier interactif, vendredi après-midi, hein, qui nous permettra de construire ensemble quelques avancées réflexives en tant qu'enseignant formateur. Je ne sais pas si, Christa, j'ai encore une petite minute. Ah bon, d'accord, j'ai voulu aller vite. J'en parlais avec Michel. il y a des livres qu'on a du mal à fermer, qu'on voudrait ne jamais terminer. J'en ai parcouru un récemment, c'est de Nicolas Bouvier, Les usages du monde. Nicolas Bouvier, vous savez, c'est ce voyageur, écrivain, qui a un grand talent pour restituer une rencontre sensible avec la géographie du monde et avec les peuples du monde. Alors vraiment, c'est un très beau texte. Et Nicolas Bouvier, dans Les usages du monde, raconte son voyage de Suisse jusqu'en Inde, et il va passer par l'Iran. Et bien sûr, enfin, ça se passe dans les années 53-54. Ils voyagent à deux, et ils ont donc une voiture, des problèmes de voiture, comme on peut avoir hein, dans ces pays et dans le cadre de ces voyages. Alors, voilà ce qu'il dit. Les voleurs l'ont toujours ménagé, la voiture. Sans doute à cause du quatrain de Hafiz que nous avions fait inscrire en persan sur la portière de gauche. Et voici le quatrain. Même si l'abri de ta nuit est peu sûr et ton but encore lointain, sache qu'il n'existe pas de chemin sans terme. Ne sois pas triste. Pendant des mois, cette inscription nous servit de sésame et de sauvegarde dans des coins du pays où l'on a guère sujet d'aimer l'étranger. En Iran, l'emprise et la popularité d'une poésie assez hermétique et vieille de plus de 500 ans sont extraordinaires. Des boutiquiers accroupis devant leur échoppe chaussent leurs lunettes pour s'en lire d'un trottoir à l'autre. Dans ces gargotes du bazar qui sont pleins de mauvaises têtes, on tombe parfois sur un consommateur en loque qui ferme les yeux de plaisir, tout illuminé par quelques rimes qu'un copain lui murmure dans l'oreille. Jusqu'au fond des campagnes, on sait par cœur quantité de ghazal, des petites unités de 17 à 40 vers, d'Omar Khayyam, Sadi ou Hafiz, comme si chez nous, les manœuvres ou les tueurs de la Villette se nourrissaient de Maurice Sève ou de Nerval. Chez nous, dans les familles, la poésie circule et nous avons pu, y compris dans des familles qu'on pourrait considérer comme démunies sur le plan culturel, nous avons pu constater lors de notre recherche qu'en France aussi, la poésie, c'est un genre littéraire qui circule facilement dans les familles, qui crée des liens sociaux. Et c'est une chose que l'école ne doit pas ignorer. Voilà.